Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Mohamed, Bertrand, Patrick et Pierre à Cannes. Coucou, Mr. President.
Oui, Babette, tout à l'heure, on va retrouver Kristen Stewart. C'est l'une des deux vedettes avec Léa Seydoux, bien sûr, du film de David Cronenberg qui a été l'événement hier soir sur la croisette. David Cronenberg de retour à Cannes après 7 ans, mais qui était sur notre plateau, qui nous avait tout dit. Mais il nous manquait quelques questions et Kristen y répond très joliment à tout à l'heure.
Les questions que nous n'avions pas posées au sujet du film de Cronenberg, c'est dans le point cannois de Pierre Lescure, juste après 20h. D'ici là, Émilie, votre choix de l'actu du jour.
Sans elle, Éric Zemmour ne se serait jamais lancé dans la course à la présidence. On l'a découvert d'ailleurs à ce moment-là comme sa compagne et sa plus proche conseillère. Un livre dresse le portrait de Sarah Knafo.
L'intrigante Sarah Knafo, c'est signé Ava, Jamshidi et François-Xavier Bénage. Ils seront dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir.
Demain, Le Monde va commémorer la journée internationale des enfants disparus. On revient ce soir sur l'une des disparitions en France les plus marquantes. C'était il y a 25 ans, la jeune fille de 9 ans, Marion Wagon.
C'est dans la story de Mohamed. Patrick, votre édito.
Pour vous expliquer la planification écologique, je vous ai planifié un petit édito. Un, qu'est-ce que c'est? Deux, comment ça marche? Trois, pourquoi faire?
Et avec qui? Surtout avec la ministre de la transition énergétique sous l'autorité de la première ministre Elisabeth Borne. Bonsoir Agnès Pannier-Runacher.
Bonsoir.
Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va s'entretenir longuement avec vous dans un instant. Mathieu dans le 5 sur 5.
Les adieux, les larmes de Jo-Wilfried Tsonga, c'était cet après-midi à Roland-Garros. Dernier match de sa carrière, enfin dernier ou presque, puisqu'il va encore jouer en double. Mais on était sur place. Vous allez entendre les supporters venus l'acclamer une dernière fois.
Jo-Wilfried Tsonga.
C'est pour ça que je ne dis qu'une fois. Je ne dis qu'une fois, pas pour rien.
Jo-Wilfried Tsonga, voilà, très émouvant, car merci Monsieur Tennis et qui a embrassé la terre battue de Roland-Garros. Oh, ça va, ça arrive au meilleur, Patrick, n'est-ce pas? Il est consterné. Nos invités du dîner, Julien Courbet, qui... depuis près de 30 ans, télévision. Voilà, s'insurge contre les arnaques. Il en a fait une émission de télévision, il nous en parle. Et puis Laurence Stocker, qui est à l'affiche d'un film hors homme au bord de la crise de nerfs, film signé Audrey Dana, et surtout qui est à l'affiche d'un incroyable avare à la Comédie Française. Il sera notre invité autour du dîner préparé par Christophe Bézanier, chef de la belle époque de l'hôtel Barrière Le Normandie, avec des petits légumes de printemps de Trouville. Christophe.
Exactement, on va travailler une assiette 100% végétale, du légume, houmous de betterave avec une fleur d'ail des ours.
Eh ben voilà, c'est parfait, 100% végétal, ça ne pouvait faire que plaisir à Patrick Cohen, qui est devenu vegan. C'est tout de suite l'édito de Patrick. Oui. La planification écologique sera donc la nouvelle méthode d'Emmanuel Macron pour accélérer la baisse des émissions de CO2. De quoi s'agit-il?
Un concept qu'Emmanuel Macron a chippé à Jean-Luc Mélenchon dans l'entre-deux-tours. Cela fait près de 15 ans que le leader insoumis a fait de la planification l'un de ses marqueurs. Il en parlait déjà au sein du Parti socialiste et ensuite lors de ses 3 campagnes présidentielles.
Le paysan, lui, si vous lui dites que vous allez lui demander tous les jours de quoi remplir les assiettes de nos gamins, avec les légumes de saison, les fruits de saison, et si possible, pas des fraises qui arrivent en plein hiver, et ainsi de suite. Si vous lui dites ça, le paysan, il sait quelle machine il doit acheter. Il sait combien de gens il peut embaucher, parce qu'il a du temps devant lui. Il a une planification possible. Voilà pourquoi le concept de planification écologique qui est au cœur de notre programme est un concept efficace. Ce qui n'est pas efficace, c'est le marché.
La planification contre la loi du marché, l'État qui programme et investit, qui organise l'avenir, comme dans les années 50 et 60, mais en quelque sorte à l'inverse du mode productiviste de ces décennies-là.
Et qui va piloter cette planification ?
Emmanuel Macron a tiré les leçons des échecs de son premier quinquennat. En 2017, il avait nommé un super ministre écolo, Nicolas Hulot, qui était, on l'a oublié, le numéro 3 du gouvernement, avec le rang de ministre d'État, et d'ailleurs avec une ministre déléguée, qui était Elisabeth Borne. Ce qui ne fait pas avancer les dossiers quand on a le reste du gouvernement contre soi. Cette fois, le pilotage de la transition est confié à la chef pilote, la première ministre, Elisabeth Borne, assistée d'un secrétaire général à la planification écologique, Antoine Pélion, qui sera chargé de coordonner la stratégie et de vérifier sa bonne exécution, puisque tous les ministres recevront cet été une feuille de route et les objectifs à tenir. Ça part de l'idée que le climat n'est pas qu'une question d'écologie, qu'il concerne tous nos modes de vie, nos façons de se déplacer, de se loger, de se chauffer, de se nourrir, de travailler, de consommer, et donc tous les secteurs ministériels. Y aura-t-il aussi, comme l'a demandé le Haut Conseil pour le climat, une évaluation climatique de toutes les lois, de toutes les mesures, notamment fiscales, votées par le Parlement ? C'est une question. Et puis dans cette architecture, deux ministres dédiés à cette action, mais dont les attributions ne sont pas encore très claires, vous nous direz. Amélie de Montchalin, la transition écologique avec les transports, le logement et la biodiversité. Et notre invitée Agnès Pannier-Runacher, à la transition énergétique avec pour mission de relancer le renouvelable et le nucléaire, de sortir des énergies fossiles, ce qui passe aussi par les transports, par exemple par cette offre de voitures propres en leasing à moins de 100 euros par mois que veut lancer le président. Il faudra nous expliquer qui fait quoi.
Reste à définir une politique.
On connaît le point d'arrivée, la neutralité carbone en 2050. On a donc la trajectoire, une baisse d'environ 5% des émissions par an, ce qui est considérable. Maintenant, il va falloir programmer, planifier toutes les mesures qui permettent d'y arriver, sachant qu'il ne suffit pas de se donner des objectifs pour les tenir. Deux exemples, la taxe carbone, dont la hausse avait été bel et bien planifiée en 2014 et qui a été stoppée, cette hausse, en 2018, au début du mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, à l'inverse, du fait de la flambée des prix, le gouvernement subventionne le pétrole à la pompe, tout le contraire d'un investissement pour le climat. Comment en sortir ? Et puis, deuxième exemple, les éoliennes en mer, dont le développement a été lancé en 2007, il y a 15 ans, lors du Grenelle de l'environnement, et dont Nicolas Sarkozy parlait ainsi 4 ans plus tard.
En 2020, 23% de notre consommation énergétique doit provenir des énergies renouvelables. 23%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a 9 ans pour grosso modo doubler la part d'énergie renouvelable dans notre énergie. Et vous, à Saint-Nazaire, c'est un défi que je vous propose, celui de relever le défi de l'énergie éolienne en mer.
23% d'énergie renouvelable en 2020, on n'est qu'à 19% encore aujourd'hui. Et avec une seule éolienne flottante en activité, au large du Croisic, pour 2 mégawatts. L'objectif fixé pour 2020, à l'époque de Nicolas Sarkozy, c'était 6000 mégawatts d'éoliennes en mer. La planification est d'abord un art de l'exécution.
On reprend les choses dans l'ordre. C'est une bonne idée chipée à Jean-Luc Mélenchon, la planification ?
C'est une bonne idée de mise en œuvre de la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité. Et donc, toutes les bonnes idées ont vocation à être appliquées. Vous connaissez notre pragmatisme. Mmh. Et surtout, ce n'est pas forcément la façon dont Jean-Luc Mélenchon l'envisage. Il l'envisage beaucoup en nationalisant. Nous l'envisageons avec une articulation qui fonctionne entre l'ensemble des acteurs, les entreprises, les ONG, les associations de consommateurs, vous et moi, les représentants des salariés, les organisations syndicales. Et c'est cette concertation qu'on veut lancer et mener.
Deuxième point soulevé par Patrick, est-ce que l'impact climat de toutes les décisions ministérielles sera évalué ?
Alors ça, c'est un point sur lequel on va travailler, mais ça paraît être une proposition de bon sens.
Faite par le Haut-Commissariat au climat.
J'étais avec le Haut-Commissariat au climat, effectivement, ce midi, pour discuter des points d'attention qu'ils avaient sur ce démarrage de quinquennat. C'est également une proposition de WWF, que j'ai également vue. Donc, en tout état de cause, on voit bien, et c'est ce que nous voulons impulser sous l'égide de la Première ministre, c'est non seulement des feuilles de route, mais des jalons calendaires, des mesures de la mise en œuvre des mesures que nous prenons et des mesures d'impact. C'est-à-dire, il y a ce qu'on fait, est-ce qu'on a produit une énergie renouvelable, est-ce que telle éolienne est en place, et puis il y a, est-ce que ça casse notre trajectoire d'émissions carbone.
Mais par exemple, une proposition qui aura un impact climat trop élevé pourrait être rejetée ?
En tout cas, il faut la regarder sous cet angle-là. C'est bien l'enjeu où elle pourrait être ajustée.
Par exemple, le fait d'aider, de baisser le prix à la pompe et donc d'inciter à la consommation d'énergie fossile.
Typiquement, on voit là la réconciliation qu'ont en tête d'ailleurs les participants au Conseil, les membres du Haut Conseil au climat, qui disent aujourd'hui, nous sommes d'accord avec vous sur le fait qu'il faut des mesures pour que les Français les plus modestes passent ce cap d'augmentation des prix, parce qu'ils sont prisonniers du carburant, ils ne peuvent pas changer leur voiture du jour au lendemain, mais ce qui est absolument essentiel, c'est qu'au plus vite, vous mettiez en place les politiques publiques qui leur permettent de changer leur voiture. Typiquement, c'est la proposition du candidat Macron d'avoir une offre de leasing à 100 euros par mois, donc où vous avez la disposition d'une voiture pour 100 euros par mois, une voiture électrique qui serait réservée aux ménages les plus modestes.
Ça pourrait être mis en place assez vite, ça?
Ça, c'est un travail que nous devons mener. Je pense qu'il faut... ça fait 36 heures j'ai démarré. L'enjeu, c'est un support législatif, probablement de type loi de finances, donc loi de finances rectificative ou loi de finances tout court. Et c'est d'avoir un dispositif suffisamment robuste pour quand on le lance, les Français puissent en bénéficier tout de suite et qu'il n'y ait pas de grains de sable dans le système. L'art d'exécution, c'est aussi que ce soit simple et que l'on puisse tout de suite en faire bénéficier le maximum de Français concernés, puisqu'encore une fois, c'est plutôt à destination des plus modestes.
Et aussi de bien équilibrer les mesures de contrainte et les mesures d'incitation et d'accompagnement. Comment est-ce que vous allez définir cette politique-là qui doit changer la vie, le logement, les modes d'alimentation, les modes de déplacement de millions de Français?
Alors, on a déjà, premier enjeu, moi je suis positionnée sur la transition énergétique.
Mon Donc
premier
plutôt sur
enjeu,
l'offre que sur
non, la... pas nécessairement parce que c'est offre et demande, c'est-à-dire que j'ai trois enjeux. Le premier enjeu, c'est la sobriété énergétique, c'est-à-dire comment nous, changeons nos comportements par rapport à la consommation d'énergie et comment nous en consommons moins dans nos pratiques quotidiennes. Ça veut dire tout simplement, est-ce que à un moment, j'ai des mécanismes d'incitation pour passer de la voiture au transport en commun? Est-ce que on peut se poser des questions avec les entreprises sur les déplacements qu'on peut éviter, les déplacements qu'on peut limiter? Donc ça, c'est la question de la sobriété énergétique. C'est changement de comportement qui n'ont pas vocation à être douloureux, ou en tout cas, il y a une partie qu'on peut faire qui n'est pas nécessairement douloureuse. La deuxième étape, c'est l'efficacité énergétique. Si je dois me déplacer, autant avoir une voiture qui n'émet pas de carbone. Et donc là, c'est tout l'enjeu de passer à des voitures électriques, de passer à des motorisations hydrogène sur des camions ou de la rénovation thermique, de passer d'une chaudière à fioul à une pompe à chaleur. Et puis le troisième enjeu, c'est comment sur l'énergie que je dois produire, je passe d'une énergie fossile, le carburant, le gaz, le fioul, à une énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre ou qui en émet le moins possible. Et donc, c'est le développement des énergies renouvelables et c'est le développement du nucléaire.
– Et des éoliennes en particulier, avec le retard que soulignait
alors
Patrick. –
Avec effectivement…
– Et les ambitions qui ont été revues à la baisse par le candidat Macron.
– Trois choses, les ambitions sur les éoliennes terrestres ont été revues à la baisse, c'est-à-dire qu'on assume que l'acceptabilité des Français sur les éoliennes terrestres est telle qu'on ne va pas dire qu'on va tout d'un coup développer deux fois plus d'éoliennes terrestres que ces 10 dernières années, parce qu'on voit bien que ça coince et qu'il y a un problème d'acceptabilité. En revanche, on ne revient pas en arrière sur le rythme de déploiement des éoliennes terrestres. Sur les éoliennes marines, au contraire, on affirme porter une ambition de 50 parcs d'éoliens marines. Donc c'est un vrai mouvement. Alors,
avec un changement de procédure, avec...
effectivement, il y a eu un premier changement de procédure que nous avions porté, c'est d'ailleurs assez amusant de le rappeler, puisque c'était Amélie de Montchalin et moi-même qui portions la loi d'accélération et de simplification de l'action publique. Et dans cette loi, il y avait des mesures pour accélérer le déploiement des éoliennes marines, notamment sur tout ce qui est contentieux. Parce que, juste petit arrêt sur image sur pourquoi on est en retard. Ce n'est pas un problème de projet. Les projets, ils existent. On a en magazine des dizaines de projets d'éoliens ou des dizaines de projets de renouvelables, puisque c'est aussi valable pour le photovoltaïque. C'est un sujet de mise en œuvre, c'est-à-dire que quasiment tous les projets donnent lieu à des contentieux juridiques. Et donc le juge fait son travail, mais cela prend du temps. Ce qui veut dire qu'on a quand même un vrai enjeu de passer dans un mode de portage des projets qui, comme en Suède, permet de sortir ces projets en prenant deux fois moins de temps.
C'est-à-dire en les imposant ?
Non, alors pas nécessairement.
Parce que là, on voit bien qu'il y a un problème d'acceptabilité. Il y a des contentieux pour chaque
projet. Il y a différentes
choses.
Il y a des problèmes d'ajustement et de lenteur administrative. C'est ce qu'on avait commencé à toucher du doigt avec la fameuse loi accélération et simplification de l'action publique qui a été votée en décembre 2020, donc, dont on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on en voit tous les effets immédiatement. Il faut que ça se traduise sur le terrain. Il y a des enjeux aussi de temps du recours sur les éoliennes marines. On propose d'aller directement au Conseil d'État pour faire le recours ultime et de traiter en une fois ces dossiers, puisque ces dossiers faisaient tout le parcours du contentieux, la première instance, la deuxième instance, la troisième instance. Donc autant aller directement à la conclusion avec un Conseil d'État qui du coup développera une expertise beaucoup plus forte et pourra traiter de manière, je dirais, en profondeur, l'ensemble des dossiers d'éolien marin. Donc voilà, c'est très concret, mais ça a vocation à nous faire gagner plusieurs années sur ces projets.
D'un mot sur la relance énergétique, c'est vous qui serez chargé de mettre en musique, de commander les annonces qui avaient été faites par Emmanuel Macron à Belfort sur la relance du nucléaire et sur les nouveaux réacteurs EPR ?
Tout à fait. Alors là aussi, hein, sur le nucléaire, il y a deux aspects. Il y a, on va dire, les installations existantes, comment on s'assure qu'elles fonctionnent au maximum et au maximum de performance et de sécurité. Oui. Et ça, c'est essentiel et on a un certain nombre de sujets dessus. Et puis, pour le futur nucléaire, comment on lance d'ores et déjà toute la dimension de concertation, parce qu'il y a une grande dimension de concertation des habitants, des citoyens, et on lance la question du financement, parce que ce sont des projets importants en termes de financement, et l'accompagnement en tant qu'actionnaire d'EDF pour faire en sorte que ces réacteurs soient livrés, alors au-delà de 2040. Donc, on prépare le futur.
À la question des déchets, quand vous parlez du futur du nucléaire ?
Oui, la question des déchets, elle est évidemment prise en compte. La question des déchets, elle est prise en compte à deux niveaux. Hein. Il y a les déchets du passé. Parce que ceux-là, ils existent. Oui. Et il faut les traiter. C'est notamment le projet CIGEO et d'autres projets. Il y a la question des déchets du futur qu'il faut anticiper et dans lequel on peut mettre de la technologie, c'est-à-dire qu'on a lancé dans le cadre de France 2030, donc il y a un plan d'investissement pour les filières du futur et qui consacre la moitié de ses moyens à tout ce qui est écologie et transition énergétique, le sujet de la réduction des déchets nucléaires, la réutilisation des déchets du nucléaire. On a souvent parlé du projet Astrid, c'est un projet qui a été abandonné, mais il y a d'autres projets qui existent, qui sont plutôt au stade effectivement de recherche et développement à ce stade, qui ne sont pas encore éprouvés, mais qui sont des pistes intéressantes pour le futur.
Parmi les autres sujets qui fâchent, il y a l'agriculture. Ce matin, votre acolyte, votre duo Amélie de Montchalin, a été interrogée sur son vote contre un amendement qui visait à interdire le glyphosate en 2018, classé comme cancérogène probable. Et c'est un vote qu'elle dit assumé.
Beaucoup ressortent ce vote de 2018 contre un amendement qui visait à interdire le glyphosate. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le regrettez ?
Je ne regrette pas une chose, c'est d'avoir considéré que ce sujet était européen. À l'époque, souvenez-vous, la France était battue pour que le glyphosate soit au maximum autorisé pour 5 ans, et donc ça va arriver là en 2023, plutôt que pour 10 ans. Et oui, en tant que députée, j'avais fait un choix, tout à fait assumé, que nous ne pouvons pas faire cavalier seul pour n'importe quel domaine que ce soit, sinon c'est notre économie, ce sont nos producteurs, ce sont nos agriculteurs que nous laissons dans la panade.
Alors elle se défend d'agir en européen, est-ce qu'on n'est pas dans l'exemple typique de la lourdeur européenne, de ce qui fait justement que l'Europe nous empêche d'avancer, ce qui fait aussi que certains électeurs ont été tentés par un Jean-Luc Mélenchon qui dénonce tout cela justement.
Alors oui et non, c'est-à-dire que il y a deux choses. La première chose, c'est que lorsqu'on veut avancer au niveau français et qu'on prend nos décisions dans notre coin, mettons un instant qu'il n'y ait pas d'Europe, comme ça, et qu'on prenne les décisions dans notre coin, et donc on dit, eh bien, nous arrêtons les glyphosates. Qu'est-ce qui risque de se passer du jour au lendemain ? Qu'est-ce qui risque de se passer ? Il risque de se passer que les pays qui sont autour de nous n'arrêtent pas le glyphosate. Et au fond, alors, c'est une protection pour nos agriculteurs au sens exposition santé, ça d'accord, mais en termes d'exposition des consommateurs, ils seront exposés à des exportations, à des importations, pardon, à des produits qui seront fabriqués en dehors d'Europe, hein, en Belgique, en Allemagne, en Italie, hein, en Espagne, pas besoin d'aller chercher très loin, et qui rentreront sur le marché français et qu'on consommera. Donc on n'a pas le bénéfice écologique. Et c'est pour ça que la dimension européenne, elle est essentielle et on l'a joué à plusieurs, enfin, plusieurs
le bénéfice
moments.
Écologique, on ne l'a pas non plus là quand c'est reculé de 3 ben ans.
Parce qu'en l'occurrence, ça nous a permis de faire pression sur la négociation en Union européenne et d'avoir effectivement un programme de réduction du glyphosate sur 27 pays.
Mais dans l'état actuel, il n'y aura pas de décision européenne, puisqu'aucune agence européenne et aucune agence nationale ne préconise aujourd'hui l'interdiction du glyphosate et ne considère que le glyphosate est dangereux, ni en France, ni dans les pays environnants, ni même l'Agence européenne de sécurité alimentaire.
Alors,
donc il n'y aura pas de décision européenne.
Alors, je pense que, pardon, mais sur le sujet des engrais, en fait, l'approche qu'on a, et j'entends ce que vous dites, et c'est très juste, c'est-à-dire qu'il y a aussi la question de ne pas tomber dans la caricature de « on bannit du jour au lendemain tel produit parce que il est déclaré dangereux alors que la science n'a pas fait son travail d'évaluation de la dangerosité du produit ». Et là, il y a un vrai enjeu parce qu'on a pu avoir comme ça des combats où on se trompait de sujet. Je n'ai pas votre science sur le glyphosate, donc je ne me permettrai pas prendre position.
C'est juste la position des agences de
j'avais sanitaire. L'impression que c'était un peu plus mitigé, ou en tout cas, on n'est pas capable de dire à ce stade, on n'est pas capable de qualifier à ce stade la dangerosité du produit, ce qui est un peu plus neutre. Mais pour aller plus loin de manière générale, surtout l'enjeu, c'est comment on arrive sur les engrais à accompagner aussi les agriculteurs pour avoir des modes de production alternatifs. Et ça ne se fait pas en claquant dans les doigts. C'est-à-dire que si vous arrêtez du jour au lendemain et que vous n'avez pas de mode de production alternatif, que ce soit le biocontrôle, que ce soit les agroéquipements, ben en fait, vous avez les mains propres, mais vous n'avez pas de mains, c'est-à-dire vous n'avez pas de production. C'est ce qui s'est passé quand même sur un certain nombre de productions, notamment de fruits et légumes, où la production française s'est drastiquement réduite, mais on n'a pas tellement d'alternatives aujourd'hui.
Un mot sur Damien Abad, le ministre des Solidarités accusé de viol, qui a réaffirmé hier son innocence et sa volonté de ne pas démissionner. En janvier dernier, vous avez publié avec l'ancienne secrétaire d'État Elisabeth Moreno un ouvrage qui s'appelle « Femmes, ministres ». Et féministe, où vous détaillez 20 propositions pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et la proposition 19 est la suivante: imposer une obligation d'exemplarité en matière de refus des violences sexistes et sexuelles aux candidats aux élections locales et nationales. Ça ne s'applique donc pas aux ministres ?
Alors, si vous lisez la proposition jusqu'au bout, qu'est-ce qu'elle prévoit ? Elle prévoit que lorsque vous avez été convaincu par un juge de violences sexuelles et sexistes, et que vous êtes un homme politique, vous pouvez avoir l'application d'une peine d'inéligibilité au même titre que lorsque vous êtes convaincu, par exemple, de prise illégale d'intérêt. C'est-à-dire que la notion que nous portons, c'est la notion où vous avez la justice qui intervient.
Il faut une
condamnation. Ce n'est pas le tribunal médiatique, ce n'est pas le tribunal de l'opinion. C'est l'idée qu'on doit considérer que c'est inadmissible d'avoir des violences sexuelles, et c'est aussi grave que de piquer l'argent dans la caisse, pour le dire vivement, et que donc on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas de peine d'inéligibilité qui soit assortie. Mais laissons les juges faire leur travail.
Donc il faudrait qu'éventuellement Damien Abad soit condamné pour qu'il renonce à son poste au gouvernement ?
Alors, aujourd'hui...
L'ouverture d'une information judiciaire...
Aujourd'hui, la question, elle se pose... Aujourd'hui, la question, elle se pose de la manière suivante. Vous avez une première personne qui a effectivement porté plainte à deux reprises, pour lesquelles la justice est intervenue, et est intervenue effectivement en...
classant sans suite.
Voilà, en classant sans suite. Mmh. Ça, c'est le premier point. Donc, a priori, la justice a poser un jugement qui est très clair et qui ne doit pas conduire à une démission quelconque. Et vous avez une deuxième personne qui exprime avoir été victime de M. Abad, mais qui n'a pas déposé plainte. Mm-hmm. Donc la justice ne peut pas faire son travail si elle devait faire un travail. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous parlons de faits qui remontent en 2010 et en 2011. Donc moi, je veux redonner le cadre. Le cadre, il est très clair. Il n'y a aucune impunité sur les violences sexuelles. Et je pense que ce que nous voyons arriver aujourd'hui, c'est-à-dire la libération de la parole des femmes, qui explique qu'un certain nombre de sujets, de situations sont en train d'être déterrés, certaines remontant à plus de 25 ans, se fait, ce qui veut dire que cette politique porte ses fruits. Elle a été portée, je le rappelle, par le président de la République.
Des faits qui sont parfois prescrits et donc où la justice ne peut pas intervenir.
Des faits qui sont prescrits, mais pas toujours, parce que vous avez souvent des situations de répétabilité. Et vous avez ensuite une amélioration de la prise en charge des victimes. Et cette libération de la parole des femmes, elle est essentielle. Donc on reste sur cette ligne-là. Il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet. Mais le sujet de la présomption d'innocence, c'est-à-dire vous avez le juge qui dit non, voilà, ou vous n'avez pas d'information judiciaire, est également important. Je pense que personne autour de cette table ne souhaiterait être mis en cause sans pouvoir se défendre, et se défendre devant une autorité qui a été formée et qui incarne ce professionnalisme de rendre une décision juste, fondée sur le droit. Donc voilà, c'est cet équilibre que l'on cherche à porter. Je crois que la Première ministre a été très claire. Hein, si il y avait un nouveau fait de justice, elle en tirerait les conséquences.
Merci Madame la ministre. Vous restez avec nous, on va continuer à évoquer un autre sujet d'actualité dans la story de Mohamed Bouabsi. Demain, 25 mai, Mohamed, c'est la journée internationale des enfants disparus. Et vous revenez sur l'affaire Marion Wagon.
Oui, cette photo, vous l'avez sans doute déjà vue à l'aéroport, dans les gares, dans les commissariats ou encore sur 10 millions de briques de lait. Marion Wagon aurait dû avoir 35 ans cette année, mais depuis 25 ans, tout le monde garde en tête son visage juvénile. Le 14 novembre 1996, vers midi, elle était enlevée à Agen.
Les recherches s'intensifient pour tenter de retrouver Marion. La jeune Agenaise, âgée de 9 ans, a disparu jeudi midi entre son école et son domicile. Les premières investigations dans le centre-ville n'ont rien donné. Ce matin, de nouveaux moyens ont été mis en place. 80 gendarmes sont partis sur le terrain. Une information judiciaire pour enlèvement de mineurs de moins de 15 ans a été ouverte.
Des enquêteurs qui ne veulent pour l'heure écarter aucune hypothèse, même si la fugue semble au fil des heures de moins en moins plausible.
Marion Wagon devait déjeuner avec ses parents ce jour-là, après avoir joué dans la cour de récréation de l'école avec une copine. Vers midi 10, elle s'empresse de rentrer à la maison, à 300 mètres de l'école. Elle ne rentrera jamais, elle ne laissera aucune trace derrière elle. 25 ans de dysfonctionnement judiciaire, de fausses pistes, notamment deux hommes incarcérés pour viol sur une fillette de 9 ans. Une piste finalement abandonnée par les juges d'instruction au cours de l'enquête. En 1997, coup de théâtre, les parents de Marion sont appelés au tribunal, une simple convocation qui se transforme en piège où le couple découvre qu'il est également suspecté.
On commence à atterrir sur des méthodes d'enquête qui sont quand même pour le moins discutables. Pour le moins discutables.
Inutile de vous dire que mes vociférations ont été telles que leur séance d'hypnose, ils ont plié la boutique, les experts ont pris l'avion, sont repartis à Paris, et il y a dans le dossier mentionnant que Maître Catala s'oppose au procès-verbal d'hypnose.
Pour les parents de Marion, cet affrontement est une nouvelle épreuve. D'autant plus qu'ils ont un alibi parfait pour le jour de la disparition de leur fille.
Roland Courdès était le chef de la sûreté urbaine au commissariat d'Agen. C'est le policier qui reçoit l'appel de la disparition de Marion. En quelques minutes, il se rend à l'école. Il comprend rapidement qu'elle a été enlevée. Pendant 14 mois, il travaille sur cette affaire. Tous les soirs, avant de rentrer à son domicile, il ira saluer les parents de Marion. Cette affaire le hante depuis 25 ans.
Quelqu'un qui n'a pas échoué. Je suis comme tout le monde et... C'est quand même très particulier comme affaire. Bon, c'était la première fois que j'avais affaire à une disparition d'enfant. Et là, avoir échoué, bon, autant je me pardonne, entre guillemets, de ne pas avoir toujours réussi mes enquêtes, autant celle-là, je me pardonne pas, quoi. Malgré toute la difficulté du chantier, on n'a pas d'excuse, en fait, de ne pas avoir avancé depuis 25 ans. Je pense que la solution du dossier, elle est déjà dans le dossier.
Le dossier de Marion Wagon est toujours ouvert. Les parents ont l'infime espoir de connaître la vérité. Rebondissement, en septembre 2021, le grêlé nommé François Vérove dévoile son passé de tueur et violeur en série à sa femme avant de se suicider. L'avocat de la famille Wagon a demandé l'ouverture d'une enquête.
Il peut y avoir un lien avec l'affaire du grêlé. D'ailleurs, j'ai saisi le juge d'instruction pour demander aux investigateurs de bien vouloir s'enquérir du fait de savoir où était le grêlé au moment de la disparition de Marion. Il faut savoir qu'à côté de l'enlèvement, il y avait une grande brigade de gendarmerie qui n'a fait l'objet d'aucune investigation sur le moment.
Les enquêteurs étudient encore les pistes menant au grêlé et à celle de Michel Fourniret.
Merci beaucoup Mohamed. Demain, donc, journée internationale des enfants disparus. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est une jeune énarque de moins de 30 ans qu'on a découverte à la faveur de l'élection présidentielle. Discrète, mais toujours dans les pas du candidat Zemmour, dont elle a dirigé la campagne dans les moindres détails. Du nœud de cravate qu'on réajuste à la stratégie en passant par le financement et les discours, une éminence grise dont l'omniprésence a beaucoup intrigué.
Éric Zemmour, qui est Sarah Knafou ?
Ma collaboratrice, ma compagne. Il n'y aurait pas eu de campagne sans Sarah Knafou.
Votre compagne ? Mm-hmm.
Mais on s'arrêtera là, si vous me permettez.
Mais c'est la première fois que vous le dites.
Ah voilà.
Bonsoir Ava Jamshidi, grand reporter pour le magazine Elle, François-Xavier Ménage, grand reporter à TF1, deux grands reporters pour co-signer l'intrigante Sarah Knafou, l'histoire secrète d'un candidat sous influence. C'est à paraître demain aux éditions Robert Laffont. Fruit d'une enquête de plusieurs mois consacrée donc à la conseillère directrice de campagne d'Éric Zemmour, sa compagne aussi, même si elle ne voulait pas qu'il officialise leur liaison. Elle est dans les coulisses de BFM ce soir-là, vous le racontez, et elle est manifestement agacée.
Oui, c'est pas un moment qu'elle a apprécié, qui avait été préparé. Et ce qui est assez troublant quand on observe son parcours, c'est que Sarah Knafou, elle est née presque médiatiquement aux yeux des gens comme étant la compagne d'Éric.
Ce qui l'agace, parce qu'elle aimerait qu'on reconnaisse ses compétences politiques et professionnelles.
Exactement, et tout le travail qu'elle accomplit auprès de lui, parce que la particularité quand même de ce personnage, qui est à la fois donc la compagne, comme vous venez de le rappeler, d'Éric Zemmour, c'est qu'elle conçoit électoralement, cet objet politique était déjà connu, mais c'est elle qui constitue tout le réseau et tout l'écosystème nécessaire au déclenchement de cette candidature.
Elle le fabrique, elle le façonne, capable notamment de dicter presque les propos de son poulain. Comme le 19 novembre 2021 à Londres, Éric Zemmour tente de mobiliser les Français expatriés, et voici comment il compare les deux pays.
Quand vous arrivez de la gare de Pancrace à la gare de la gare du Nord, vous voyez effectivement à quel point notre cher pays a changé et à quel point notre cher pays subit une invasion phénoménale et un remplacement de population qui crève les yeux.
Ça, c'était pas prévu, hein, François-Xavier Ménage.
Disons que ça n'était pas prévu par lui, mais par elle. Parce qu'une heure avant, j'y étais, donc on peut l'attester. Ils ont tous les deux travaillé sur le discours. Éric Zemmour a quelques idées qu'il a glissées dans son téléphone portable et propose plein de références historiques. Et Sarah Knafou, au bout de 3 minutes, l'interrompt et dit « Stop, tu vas parler de la gare du Nord, tu vas parler des expatriés français qui, à Londres, quand ils arrivent ensuite à Paris, dès donc la gare du Nord, voit le grand remplacement. Et cette idée, qui est celle donc de Sarah Knafou, eh bien ensuite est reprise par le candidat. À cet instant, c'est une démonstration implacable que ce n'est pas un candidat qui, quelques semaines plus tard, va devenir officiellement candidat. C'est un duo qui va faire cette présidentielle avec, parfois, les idées de Sarah Knafou qui anglent. Vous savez, comme les journalistes, quand on dit, quand vous parlez de quelque chose, il faut que ce soit anglais. Et en permanence, c'est elle qui renvoie à ce qui est, selon elle, le plus important, notamment donc, les questions identitaires.
Mais il est sous influence, mais consentant, quoi. C'est pas son corps défendant.
Il est parfaitement consentant. Mmh. Il se dit souvent ébloui par son agilité intellectuelle. Et puis il est aussi, même si notre livre n'est pas du tout people, il est aussi amoureux. Et c'est vrai qu'elle a plusieurs casquettes. Et c'est un binôme avec la porosité que l'on voit durant toute la campagne.
Vous parlez d'une osmose intellectuelle entre eux. C'est la réalité, ça ?
Oui, c'est ce qu'on a pu constater lors des différentes rencontres qu'on a fait avec eux. Il y a une entente très singulière qui s'explique par le temps. Ils se connaissent depuis que Sarah Knafo a 15 ans. Il l'a accompagnée pendant ses études. Il l'a fait office de mentor jusqu'à ce que leur rapport s'inverse un peu. Éric Zemmour aurait adoré être énarque. Il a échoué à deux reprises à ce concours. Et au moment où Sarah Knafo, elle, parvient à obtenir ce concours, commence à se constituer un réseau assez important, et bien là, leur rôle s'inverse un peu. Et oui, on peut totalement parler d'osmose entre eux. Il y a un autre détail qui nous a beaucoup interpellés pendant cette enquête, c'est le fait qu'ils partagent leur bureau pendant cette campagne, dans le QG de campagne. Éric Zemmour et Sarah Knafo sont les deux seuls conjoints et candidats directrices de campagne à partager cet espace où est conçue toute la stratégie de ces moments essentiels pour construire cette candidature.
Pour construire cette candidature, justement, pour revoir toutes les stratégies, la chef d'orchestre, donc Sarah Knafo, s'inspire de la campagne d'Emmanuel Macron, parce qu'elle la compare finalement à leur situation, à son candidat, une campagne partie de rien. Donc elle veut comprendre comment Emmanuel Macron et son équipe En Marche a fait pour se structurer, quelles erreurs ils ont fait. Et pour cela, elle a tout étudié, c'est ce que vous dites dans le moindre détail. Elle a lu tous les Macron Leaks, les fameux documents piratés rendus publics du mouvement En Marche. On parle quand même de milliers de documents, là.
Oui, c'est des documents assez austères, en plus, puisqu'il s'agit de mails. Oui, mais elle avait vraiment envie de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas dans l'organisation d'une campagne. Elle a trouvé là une source d'information très précieuse qu'elle a épluchée en dupliquant ensuite certaines méthodes qu'elle a calquées à la préparation de cette campagne pour Éric Zemmour.
Et ça, on a mis du temps à le comprendre, parce qu'on a interviewé ou on a questionné 80 personnes de son entourage, proches ou lointains. Et c'est vrai que cette info n'est pas arrivée tout de suite, parce que ça paraît bizarre, quand on est effectivement la directrice de campagne d'Éric Zemmour, de s'inspirer d'Emmanuel Macron et de sa réussite en 2017. Or, c'est ce qui s'est passé. Sur le front idéologique, évidemment, on est dans toute autre chose, bien entendu, mais sur la logistique, et elle décide de tout. Elle connaît les audiences, elle connaît vos audiences. Tous les soirs, elle peut savoir les variations. Si c'est mieux de venir le mardi ou le jeudi. Non, mais c'est impressionnant de voir qu'elle regarde tout à 360
degrés. Il était venu un mercredi, Éric Zemmour, alors.
Bon, c'était bien le mercredi, non?
C'est sûr que c'était bien.
C'était peut-être pas notre meilleure audience de l'année. C'est sûr que non, mais là, c'est peut-être indépendant de sa présence. Vous évoquez donc son parcours, né à Pavillon-sous-Bois, c'est en banlieue parisienne. C'est un professeur d'économie qui va lui donner le goût de la politique, un monde avec lequel elle va essayer d'entrer avec beaucoup de détermination. C'est ça qui est assez frappant dans le portrait que vous dressez d'elle. L'objectif, c'est l'ENA. Pour arriver à l'ENA, souvent la voie royale, c'est de faire Sciences Po, là où elle va se faire remarquer, notamment lors d'un débat qu'elle organise avec Jean-Pierre Chevènement, où il est déjà question d'Éric Zemmour.
Cette conférence qui a été organisée par l'association Critique de la Raison Européenne. Monsieur le ministre, j'aimerais vous transmettre un message de justement Éric Zemmour qui vous passe le bonjour et qui me dit de vous dire qu'il aurait rêvé être à votre place, ce qui lui a malheureusement été rendu impossible puisque Sciences Po a refusé sa venue pour des raisons de sécurité a priori. Donc bon, on va pas faire de politique, et dans l'esprit du 11 janvier, on va oublier et remercier Sciences Po de nous avoir aujourd'hui donné la possibilité de vous inviter. Après, une dernière question, est-ce que vous êtes candidat en 2017?
Ça dépendra beaucoup de ce que vous en pensez. Donc la réponse dépend de vous, mademoiselle.
La réponse dépend de vous, mademoiselle. Jean-Pierre Chevènement, qui a peut-être vu quel était le potentiel de Sarah Knafo ou pas du tout.
Qui a l'air sous charme, en tout cas.
Qui a l'air sous charme, mais je crois que tout est dit là-dedans. C'est-à-dire qu'elle a l'art de parler à ceux qui comptent en politique. Elle y voit un intérêt pour elle qui lui permet aussi de bosser Elena et son réseau, disons-le sans phare. Et puis, par ailleurs, vous avez entendu ce qu'elle dit au début, et ça raconte aussi son parcours politique. Elle connaît déjà Éric Zemmour. Elle va prendre des cafés avec lui. Elle réfléchit à son avenir. À lui, elle dit qu'elle veut faire l'ENA. Alors que quand elle est en stage à l'Assemblée nationale, elle n'ose pas dire qu'elle va faire l'ENA. Et donc, d'une certaine manière, il y a déjà ça qui travaille. Et puis, il y a, et c'est ça aussi sur le front des idées, c'est ce qui nous importait dans le livre, il y a aussi cette étudiante à Sciences Po qui dit « Mais pourquoi on n'aurait pas le droit de faire un parti politique, Rassemblement National, Front National à l'époque, au sein de Sciences Po? Pourquoi on interdirait ça ?» Et elle prend la parole publiquement parfois dans des réunions à l'intérieur de Sciences Po pour dire « Non, non, le Front National a sa place à Sciences Po. » Donc elle commence à décomplexer les idées de droite et d'extrême droite.
Vous racontez tout cela et très brillamment comme une cavalcade victorieuse ou une chevauchée conquérante, ce que ça a été à l'automne pendant plusieurs mois, mais au final C'est un échec. Grave échec électoral et politique. 7% malgré un tam-tam médiatique qui n'a jamais eu aucun précédent et une montée de sondage jusqu'à 16-17%.
7% au port du second tour.
Au port du second tour. Alors, l'échec, à qui la faute ? Est-ce que c'est...
est-ce qu'elle se remet en cause, oui ?
Elle se remet évidemment en cause, mais ce qui est assez intéressant, je ne sais pas si vous vous souvenez de la prise de parole d'Éric Zemmour à l'issue du premier tour, il dit précisément qu'il est le seul responsable de cet échec, même si, effectivement, en interne, dans l'équipe de campagne, beaucoup, compte tenu de l'omniprésence, de l'importance, de l'influence décisive de Sarah Knafo pendant cette campagne, y ont vu une forme de responsabilité et lui en tiennent un peu rigueur.
Et elle dit que le 25 février, alors c'est toujours facile de refaire le match après, mais elle nous l'a dit, le 25 février, c'est fini, c'est plié. Pourquoi ? Le 24,
la guerre en Ukraine. Oui.
Jusqu'alors, il était plutôt haut dans les sondages. Et là encore, et c'est sa lecture politique, elle dit que son électorat est plutôt bourgeois et que quand il y a une guerre, vous suivez le patron, le chef de guerre. Le chef de guerre s'appelle Emmanuel Macron et donc on doit loyauté au chef de guerre.
Marine Le Pen assume mieux ce qu'elle fait. Oui. A mieux su tirer de cette actualité difficile.
C'est la faute de Poutine.
C'est la faute de Poutine. Oui, bien sûr.
Mais c'est perdu, c'est la faute de Poutine.
Et c'est ce qu'exprime Sarah Knafo.
Où elle vous dit merde, un coup du destin lorsqu'elle apprend l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Sarah Knafo qui a pour modèle quand même une conseillère bien connue.
On peut se demander quelle est son ambition réelle à Sarah Knafo, parce qu'elle admire son idole, c'est Marie-France Garraud, une des premières femmes qualifiées de puissante. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle va la présenter lors d'une conférence à Sciences Po en 2015. Elle est connue, elle, pour avoir été l'éminence grise de Jacques Chirac, la conseillère de l'ombre de Jacques Chirac, mais elle dit en même temps qu'elle craint d'être cantonnée à cette conseillère de l'ombre.
On sent cette espèce de tension chez elle et cette ambiguïté, même dans son rapport à la lumière, puisqu'elle veut rester dans l'ombre et on n'a pas pu s'empêcher de la voir. Là, elle s'est interrogée sur l'opportunité de se présenter aux législatives. Elle a finalement décidé de ne pas y aller, mais elle ne s'interdit rien pour l'avenir. Et c'est très rare quand vous suivez une campagne, quand vous travaillez comme on a pu le faire pendant des mois, de voir des gens dont on sent ou dont les entourages pressentent qu'ils pourraient avoir un destin, de voir des gens qui sont interpellés par des passants, qui les invitent à suivre un parcours électoral. Donc, même si elle ne formule rien, en tout cas, elle ne nous a rien dit sur d'éventuelles ambitions présidentielles ou électorales, ce qu'elle a dit, en revanche, c'est qu'elle ne s'interdisait absolument rien.
Mais elle a un avenir. Ça, c'est ce qu'on vous confie.
Elle a un avenir. Sachez qu'elle a eu des coups de fil, visiblement, de patrons du CAC 40 qui lui ont dit, sitôt l'échec du premier tour, est-ce que vous viendriez travailler chez nous ? Elle sait aussi comment se constitue une légende. Donc, ce sont des anecdotes qui peuvent être glissées à bon escient. Mmh. Et puis, par ailleurs, je pense qu'elle n'a pas encore tranché sur le fait qu'elle puisse ou non prendre la lumière. À un moment, elle s'était posé la question de savoir si elle allait faire des interviews dans le cadre de cette présidentielle. Elle ne l'a pas fait. Mmh. Elle n'a pas 30 ans. Elle a énormément d'ambition. Elle clive, elle le sait, elle est radicale, elle est jeune. Et tous ces mots dans une même phrase nous laissaient entendre qu'il fallait bosser dessus, parce que ça dit quelque chose de la politique en 2022 qu'on ne pouvait pas écrire avant. On a le droit d'être contre ces idées, mais analyser ce phénomène nous semblait important parce qu'il y a une certaine épaisseur, ça raconte quelque chose, je pense.
L'intrigante Sarah Knafo, ce récit est à paraître demain chez Robert Laffont. Évidemment, c'est un livre non autorisé, puisque Sarah Knafo n'a pas lu ce livre. Elle sait que ce projet existe et elle attend le lire avec beaucoup d'appréhension. Nous, on a lu, on a trouvé ça passionnant. Merci à tous les deux,
vous restez avec nous.
C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonsoir à toutes et à tous.
Mathieu, un grand patron incarcéré pour viol sur mineur.
Une affaire difficile à croire tant elle est sordide, un homme, Jacques Boutier, 75 ans, qui n'est pas forcément connu du grand public. C'est le fondateur et directeur général d'Assu 2000, une fortune estimée à 160 millions d'euros. Il est poursuivi pour traite d'êtres humains sur mineur, viol sur mineur de plus de 15 ans, recours à la prostitution d'un mineur et agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Les faits présumés tels que nous les connaissons. Au mois de mars, une jeune femme de 22 ans dépose plainte. Elle explique alors aux policiers qu'elle est retenue, séquestrée par un homme riche qui la viole depuis plusieurs années, 5 ans au moins. Dans les détails les plus glauques, il lui aurait dit récemment qu'elle est trop vieille à ses yeux et qu'il lui faudrait trouver une remplaçante. Une adolescente de 14 ans aurait ensuite pris sa place. Les associations de défense de l'enfance se sont saisies du dossier.
Tous ces prédateurs, et notamment ces gens de grande fortune qui ont ce sentiment d'impunité, Eh bien, si cela se révèle vrai, commettent des actes monstrueux au nom d'une puissance sur les plus vulnérables.
La jeune femme de 22 ans était hébergée dans un appartement. Elle a apporté une vidéo aux enquêteurs où l'on verrait l'autre jeune fille, celle de 14 ans, dans un lit en compagnie de Jacques Boutier. Ce dernier savait l'existence de cette vidéo. Il aurait recruté 3 hommes pour menacer la plaignante. Parmi ces hommes figurait un ancien membre du GIGN. Le profil de ces jeunes filles interroge. Françaises, toutes les deux d'origine étrangère, précaires et sous emprise.
On parle de mineurs et de jeunes majeurs vulnérables. Une interrogation se pose, pourquoi cette mineure a pu être approchée par un tel homme. La séquestration, il n'y a pas besoin d'enfermer quelqu'un à clé. La séquestration, elle peut être psychique. Elle était dans un squat, 14 ans, elle devrait être soit prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Si elle ne l'était pas, pourquoi? Est-ce que c'était une mineure étrangère isolée? Pourquoi les mesures de protection n'ont pas fonctionné? Voilà, l'instruction, elle va aussi avoir pour but cela, de démontrer ça.
Au total, 6 personnes sont mises en examen, toutes placées en détention. Jacques Boutier, son épouse, les 3 hommes de main dont j'ai parlé et une autre jeune fille. Jacques Boutier rémunérait la victime de 22 ans. C'est alors ajouté une mise en examen pour recours à la prostitution d'un mineur. Le groupe ASU 2000, qui était renommé Villavie depuis peu, a confirmé la démission de son directeur général. Le groupe Villavie prend acte de l'annonce de démission de Jacques Boutier, de son mandat de président et de toutes ses activités et responsabilités au sein de l'entreprise.
5 ans après MeToo, le groupe Air France met-il la poussière sous le tapis?
En tout cas, ce soir, il y a matière à réinterroger le dernier slogan de la compagnie, faire voler l'élégance toujours plus haut. Nos confrères d'RMC ont révélé des témoignages ce matin, témoignages d'hôtesses de l'air de la compagnie, viol, agression sexuelle, harcèlement, qui ne semblent pas ou pas suffisamment être pris en charge par les ressources humaines.
On m'a bloqué physiquement, je lui ai dit attention, je lève les genoux s'il faut. Sous-entendu que je ne me laisserais pas faire. Et là, il s'est plaqué contre moi. Il m'a susurré à l'oreille en me léchant l'oreille, en me disant « Est-ce que quand tu lèves les genoux, est-ce que tu les écartes ?» J'étais vraiment terrorisée. Je suis allée voir la DRH et elle m'a dit « Mais tout ce que vous pouvez faire, c'est aller au commissariat de police avec 2 témoins et déposer plainte. » C'était ma parole de petite hôtesse face à celle d'un chef de cabine.
Un des pilotes a commencé à me parler de mes yeux, de mes cheveux, de ma bouche, s'imaginant le matin, me prenant par derrière, toujours en me regardant droit dans les yeux. « Je mets ma tête entre tes cuisses, je te lèche. » J'étais complètement sidérée, c'est-à-dire que devant moi j'avais des supérieurs hiérarchiques qui riaient, mais ce que j'entendais était un viol verbalisé.
Sur ce dernier témoignage, écoutez la réaction d'une responsable d'Air France. Les pilotes auteurs d'agressions ou d'harcèlement n'ont pas forcément de quoi se sentir immédiatement menacés.
Effectivement, c'est intolérable. C'est ce genre de propos, il ne doit pas exister.
Ça ne doit pas exister, mais les pilotes peuvent continuer de voler.
Ils continuent de voler, ça dépend de quoi on parle. Il faudrait que quand on a une situation, il faudrait que le pilote arrête de voler. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Hein. Il faut suffisamment de preuves et il faut des faits très lourds pour être licencié.
C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, ce n'est pas très grave.
Pour l'instant, ce n'est pas suffisamment grave.
Vous ne donnez pas de statistiques?
Je suis allée dire pourquoi faire.
Mais j'ai vu dans votre charte que normalement, il devait y avoir un bilan annuel des signalements qui étaient publiés justement chaque année.
Écoutez, on le fait, mais on ne publie pas les chiffres en l'occurrence.
Donc vous avez des statistiques?
Oui.
Mais vous ne les publiez pas?
Non.
Louis Amar et Camille Schmitt sont allés interroger la journaliste que vous venez de voir, qui a mené l'enquête. Marie Dupin nous explique aussi la procédure appelée no-fly, une façon d'apporter une garantie aux hôtesses sans pour autant inquiéter les pilotes.
Ces deux hôtesses ont rapporté ce qui leur était arrivé à la direction. La première, on lui a répondu, on ne peut rien faire pour toi, va porter plainte avec 2 témoins. Évidemment, il n'y avait pas de témoins, donc elle a juste laissé tomber. L'autre hôtesse a rapporté les faits à la direction donc au mois de décembre dernier, donc 2 jours après l'agression. Et c'est là qu'on lui délivre une attestation no-fly. C'est une procédure qui est mise en place par la compagnie aérienne pour éviter que les hôtesses victimes de harcèlement se retrouvent dans le même équipage que leurs agresseurs présumés. Elle a l'impression que les pilotes sont protégés, c'est d'ailleurs ce qui ressort du discours des hôtesses, qu'il y a une sorte d'impunité des pilotes vis-à-vis des hôtesses de l'air.
C'est donc à la victime que l'on dit de ne pas travailler, pas aux auteurs présumés des faits d'agression ou de harcèlement.
À Roland-Garros, où le tournoi a commencé dimanche, ce soir, c'était le dernier match ensemble de toute la carrière de Joe Wilfried Tsonga.
Oui, un événement, il l'avait annoncé il y a quelques mois qu'il ferait ses adieux, qu'il terminerait sa carrière porte d'Auteuil, 297e mondial. Il jouait aujourd'hui contre Casper Ruud, norvégien, classé 8e. C'était attendu. Joe Wilfried Tsonga a été éliminé en 4-7 après avoir bataillé, après avoir remporté le premier set. Je vous propose ces derniers instants en pro, la fin de sa carrière aujourd'hui.
Ah, écoutez ça.
Merci, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Merci.
Voilà, c'était le dernier point de l'immense carrière de Joe Wilfried Tsonga. Derrière Yannick Noah avec ses 18 titres, l'ovation ultra méritée.
C'est beau hein, ce qu'ils sont en train de faire, rendre hommage à Joe, les copains, la famille. C'est incroyable.
Et j'espère que le monde s'apaisera comme je suis apaisé aujourd'hui. Merci Roland, merci Monsieur Tennis, je t'aime.
Oui, Louis Amar et Camille Schmitt sont rendus à Roland-Garros aujourd'hui. Les adieux de Tsonga, le dernier match des supporters, étaient venus saluer le joueur français.
Ça a procuré des émotions incroyables. Du coup, on a l'arme à l'œil pour son dernier match.
Il s'est vraiment battu sur tout et ça se voit, sa dernière. En tout cas, on ressent sa combativité.
Jusqu'au bout d'ailleurs, hein, il s'est battu, on sentait bien la blessure sur la fin. Il n'a rien lâché et c'est ça aussi qu'on aime chez Joe.
Ça fait quelque chose quoi, de voir là, tous les entraîneurs, sa famille et tout.
Pour nous, c'était le joueur français qui nous procurait le plus d'émotions à Roland-Garros ici et dans les grands tournois du Grand Chelem notamment.
C'est hyper émouvant parce que c'est un joueur qui a vraiment marqué toute une génération et dont la mienne.
C'est quand même le plus grand champion français de tennis des 20 dernières années, donc ça fait à la fois chaud au cœur de le voir avoir de beaux adieux et en même temps c'est une page qui se tourne pour le tennis.
Après lui, on se demande un peu qui va prendre la relève et... il va laisser un grand vide derrière lui, ça c'est sûr.
Magnifique ces costumes de mousquetaire.
Alors après ces adieux, on retrouvera Jean-Wilfried Tsonga sur les cours, à Roland-Garros, dès demain. Oui, il doit encore participer.
Ah, c'était des faux adieux
de double. Il joue en double avec Richard.
Donc de nouveau, il y aura ses adieux en double demain.
Je ne sais pas si on aura la même cérémonie.
Non, mais peut-être qu'il va gagner, surtout.
Il va gagner.
Exactement.
À suivre, évidemment.
Surtout que Richard Gasquet, lui, s'est qualifié pour le second tour de Roland-Garros. Vous qui suivez le tennis.
Je suis plus le tennis que moi.
Il nous reste 50 secondes et vous avez une dernière image.
Une image magnifique. C'est un apnéiste marseillais, Arnaud Gérald, qui détient 4 records du monde d'apnée et qui s'est filmé au large de Tahiti à TEA Wupo. Une vidéo, un ballet presque, un homme qui nage dans et sous les vagues. Cette vidéo, digne des plus beaux offices de tourisme, a été tournée sur le site des épreuves de surf des Jeux de 2024.
Ah ben bah oui, parce que ça se passera à Tahiti. Ouais. Ah oui, bah faut.
Beau, hein.
Tout le monde n'a pas choisi la bonne discipline. Merci beaucoup Mathieu, merci Ava Jamshidi, François-Xavier Ménage, l'intrigante Sarah Knafo, l'histoire secrète d'un candidat sous influence, c'est chez Robert Laffont. Merci à tous les deux, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Dans un instant, Julien Courbet, comme toujours, en lutte contre les arnaques, et puis Laurent Stocker, comédien de la Comédie française, qui est à l'affiche d'un film avec des hommes au bord de la crise d'honneur. Tiens, Patrick, t'aurais pu... comme c'est Amstazen, il a envie de m'étrangler, parce que je savonne depuis 19h. C'est comme ça, c'est ton destin. À tout de suite pour le dîner, c'est à vous.